Bienvenue à Larapachis. Cet audioguide que Duva Workshop a réalisé pour cette visite vous accompagnera pendant votre parcours. Pour avoir la description du musée que vous êtes en train de visiter, il suffira de suivre quelques simples instructions. Vous devez seulement appuyer sur le clavier de l'audioguide sur le numéro correspondant au point qui vous intéresse et confirmer le choix avec la touche verte « Pause Play ». Pour annuler d'éventuelles opérations erronées, vous pouvez appuyer sur la touche « C ». Pour suspendre et reprendre le récit pendant la visite, appuyez toujours sur la touche « Pause Play ». Le récit peut aussi être interrompu en appuyant sur la touche rouge carré « Stop ». Le contrôle du volume est garanti par les deux touches « Plus » et « Moins » qui se trouvent à côté du symbole de l'audio. Bonne visite et bonne écoute! La grande maquette représente le contexte original de Larapachis Auguste, dans le champ de Mars septentrional, en 14 après Jésus-Christ, l'année de la mort d'Auguste. Tous les édifices présents dans la maquette font partie du grand plan de rénovation voulu par le prince et réalisé par lui à l'aide de Agrippa, son gendre. Le champ de Mars était antiquement divisé en deux zones distinctes, l'agglomération et le campus, la zone libre de construction. La vaste plaine, non édifiée, destinée initialement au déroulement des exercices militaires, devint à l'époque d'Auguste l'espace consacré à l'activité sportive des jeunes Romains. L'hôtel se trouvait donc au centre d'une vaste zone plate, où, 15 ans auparavant, en 28 avant Jésus-Christ, Octavien avait voulu édifier son mausolée, la tombe qui lui était destinée ainsi qu'à sa famille, et où, après avoir pris le titre de Auguste, il s'apprêtait à construire, en même temps que Larapachis, la grande horloge solaire qui aurait pris le nom de Horologium ou Solarium Augusti. Le style de cette horloge était constitué par l'obélisque qu'Auguste avait fait transporter spécialement de Héliopolis, en Égypte, et qui se trouve aujourd'hui au centre de la place Montecitorio. La zone sur laquelle avait été édifié le complexe monumental fut bientôt intéressée par une générale élévation du terrain à la suite des inondations du Tibre, ce qui détermina à partir du IIe siècle après Jésus-Christ l'irréversible enfouissement qui, pendant plus d'un millénaire, fit tomber le silence sur Larapachis, favorisé aussi par la construction, sur les terres qu'il a recouvrées, de nouveaux édifices à la suite de l'urbanisation de la zone. On dut donc attendre la Renaissance, son renouveau des constructions et le nouvel intérêt pour l'antique, pour que l'on recommence à avoir des nouvelles du monument, avec le retour à la surface de ses fragments dans le sous-sol de Via in Lucina. La récupération de Larapachis commença au XVIe siècle, et, entre découvertes fortuites et fouilles ciblées, elle s'acheva 4 siècles plus tard, avec sa recomposition en 1937-38 à environ 300 mètres de distance par rapport au site d'origine. Dans la salle, on peut voir, à gauche, des moulages de portraits de quelques membres de la famille impériale. Sur le mur du fond, à droite, l'arbre généalogique de la famille d'Auguste avec la succession des empereurs Julio-Claudien. Auguste narre dans ses « Res Geste » « Quand je revins à Rome de Gaule et d'Espagne, sous le consulat de Tibère Néron et Publius Quintilius, après avoir heureusement réglé les affaires dans ses provinces, le Sénat décréta que soit consacré un hôtel à la paix Auguste dans le champ de Mars et ordonna que chaque année, les magistrats, les prêtres et les vierges vestales y célèbrent un sacrifice. Le Sénat décréta la construction de Larapachis le 4 juillet de l'an 13 avant Jésus-Christ, tandis que la Dedicatio, son inauguration, eut lieu le 30 janvier de l'an 9 avant Jésus-Christ, en correspondance, peut-être voulue, avec l'anniversaire de la naissance de Livie, la femme d'Auguste. L'Ara Pacis est composée d'une enceinte, interrompue par deux entrées, qui contient à l'intérieur la mensa, l'autel sur lequel on offrait les dépouilles des animaux et le vin. Il reproduit les formes d'un templum minus, décrit ainsi par Festo. Les templa minora sont créés par les augures, les prêtres, en clôturant les lieux choisis par des planches de bois ou par des draps, pour qu'il n'ait pas plus d'une entrée, et en délimitant l'espace par des formules établies. Le temple est donc le lieu clos et consacré, de manière à rester ouvert sur un côté et à avoir des coins bien fixés par terre. À l'exception des entrées, qui dans le cas de l'Ara Pacis sont deux, cette description s'applique particulièrement bien à ce monument. À l'intérieur de l'enceinte, dans la partie inférieure, est représentée la cloison en bois qui délimitait l'espace inauguré par les formules sacrées. Dans la partie supérieure, séparée de l'inférieur par une bande décorée de palmes, la représentation des festons et des bucranes, c'est-à-dire des crânes d'animaux, entrecoupés de patere, les coupes rituelles, constitue un rappel de la décoration qui était placée au-dessus de la clôture en bois, ornée de guirlandes, extraordinairement riches d'épis, de baies et de fruits de toutes les saisons, aussi bien cultivés que spontanés, et qui était fixé au soutènement par des vitae, ou bandelettes sacrées. L'autel est constitué d'un podium de quatre marches, d'un embasement qui présente quatre autres marches sur un seul côté, et enfin de la mensa, serrée entre deux avant-corps latéraux. Les deux bords latéraux présentent des éléments décoratifs en volutes végétales et des lions ailés. Sur l'intérieur du bord de gauche, on distingue les vestales, six en tout, représentées la tête couverte, en ordre croissant d'âge, comme l'indique clairement la différence de taille. Ce sont les Virgines, nommées par le Pontifex Maximus, la charge sacerdotale la plus importante, et choisies parmi les jeunes filles aristocratiques d'un âge compris entre 6 et 10 ans, gardiennes du feu sacré pendant 30 ans. Nous les voyons ici au cours de la cérémonie, accompagnées d'assistants. De la frise, qui se trouvait en face de celle des Vestales, il ne reste qu'un fragment avec deux figures, dans lesquelles on a supposé reconnaître un flamen, un prêtre, et dans le personnage en robe avec la tête voilée, Auguste lui-même, peut-être représenté dans sa qualité de Pontifex Maximus. Sur le bord externe de gauche est conservée une procession avec trois animaux, deux bovins et un mouton, conduits au sacrifice par 12 préposés, victimari. On peut voir dans leurs mains les instruments du sacrifice, les plateaux, le couteau, la massue et le rameau de laurier pour l'aspersion. Ils sont précédés d'un homme en robe, ou peut-être un prêtre, accompagné d'aides et d'assistants du culte. Ces représentations, dans leur ensemble, se réfèrent à un sacrifice, peut-être celui de la Pax Augusta, que le Sénat avait décrété que l'on célèbre chaque année le 30 janvier pour la fête de la consecratio de l'autel. L'enceinte repose sur un grand embasement en marbre, presque entièrement reconstruit, sauf quelques dalles qui ont été réinsérées à gauche de l'entrée principale de l'enceinte, sous le panneau avec le lupercal, et sur le côté gauche, en correspondance de la procession. L'enceinte est divisée en deux registres décoratifs, l'inférieur, végétal, le supérieur, à figure, avec la représentation de scènes mythiques sur les côtés des deux entrées, et avec un cortège de personnages sur les autres côtés. Il y a, entre eux, une bande de séparation avec un motif à croix gammée, aujourd'hui largement refaite, sur la base des quelques fragments originaux récupérés pendant les fouilles. À gauche de l'escalier placé sur le devant de l'enceinte, quelques fragments ont permis de reconnaître la représentation d'un des moments fondamentaux du mythe de la fondation de Rome. Romulus et Rémus, allaités par la louve, sous le regard pensif du pasteur Faustulus, qui adoptera et élèvera les jumeaux, et de Mars, le dieu qui les avait générés en s'unissant avec la vestale Rhea Silvia. Au centre de la composition se trouve l'arbre, le figuier ruminal, sous lequel se déroule la scène de l'allaitement. Sur le fragment restant de l'arbre, on peut distinguer les serres d'un oiseau, complété en 1938 comme un aigle, mais c'est peut-être un pivert, qui, comme la louve, est sacré pour Mars. À droite du figuier, il y a le pasteur Faustulus. À gauche de l'arbre, Mars. Le dieu est représenté en qualité de guerrier. La lance dans la main gauche, le casque panaché et orné de griffons, la cuirasse, sur laquelle on peut clairement distinguer la tête ailée d'une gorgone. À droite de l'escalier situé à l'avant de l'enceinte, on peut voir un des reliefs les plus intacts et les plus appréciés de toute la composition. Aîné qui sacrifie aux pénates, les divinités protectrices de la famille et de l'État. Au centre du tableau, Aîné, déjà âgé avec une barbe fournie et une lance, symbole du pouvoir dans la main gauche, est représenté en qualité de prêtre avec la tête couverte, au moment où il fait une offrande sur un autel rustique. La partie finale du bras droit est perdue, mais probablement il tenait dans sa main une patere, une coupe rituelle, comme le fait penser la présence d'un jeune assistant au rite, Camillus, qui porte un plateau avec des fruits et des pains, et une cruche dans la main droite. Un deuxième assistant pousse une truie vers le sacrifice. Derrière Aîné, on reconnaît une figure masculine, presque entièrement perdue, probablement identifiable avec Iule Ascagne, le fils d'Aîné, qui donne son nom à la famille des Juliens, dont descend Auguste. Dès sa découverte, ce relief a été interprété sur la base du 8e livre de l'Énéide, selon lequel Aîné, ayant abordé sur les côtes du Latium, assiste à l'accomplissement de nombreuses vaticinations, parmi lesquelles l'apparition d'une truie blanche avec 30 porcelets. C'est le signe annoncé, et Aîné sacrifie l'animal sur le lieu où sera fondée la ville de Lavinium, l'actuelle Pratica di Mare. Selon une autre interprétation de la scène, le personnage qui sacrifie est Numa Pompilius, le deuxième des sept rois, qui gouverna Rome en temps de paix et lui donna ses rites et ses lois. Celui qui construisit le temple de Janus et célébra dans le champ de Mars un sacrifice à la concorde entre Sabins et Romains, au cours duquel on pouvait sacrifier une truie. Si la scène représentée est bien celle du sacrifice de Numa, alors l'autel rustique central serait le premier autel de la paix romain, précurseur du monument d'Auguste. Le relief le plus connu de l'Ara Pacis est le panneau à gauche de l'entrée situé sur l'arrière de l'enceinte. Après une initiale opposition entre ceux qui reconnaissaient dans la représentation de ce panneau la personnification de l'Italie et ceux qui, au contraire, identifiaient la figure avec Tellus, la terre-mère, cette dernière hypothèse a fini par prévaloir. Toutefois, cette lecture ne doit pas être considérée univoque et acquise. Tout aussi convaincante est l'identification de la déesse comme Vénus, mère divine de Aîné et ancêtre de la famille des Juliens. D'autres auteurs ont préféré reconnaître dans la figure centrale la Pax Augusta, la paix, dont l'autel prend son nom. La déesse est assise sur les rochers, vêtue d'une tunique légère. Sur sa tête voilée, une couronne de fleurs et de fruits. À ses pieds, un bœuf et un mouton sont tranquilles. La déesse soutient à ses côtés deux putti, un desquels attire son regard indulgent et pensif en lui tendant une pomme. Sur son sein, Une grappe de raisins et des grenades complètent le portrait de la divinité génitrice, en vertu de laquelle prospèrent les hommes, les animaux et les plantes. Sur les côtés du panneau, deux jeunes femmes, dans la mythologie les Aure Velificantes, serrent les pans d'un manteau gonflé par les vents. La première, assise sur un dragon de mer. La seconde, sur un cygne aux ailes déployées, pour signifier respectivement les vents bénéfiques de mer et de terre. À droite de l'entrée située à l'arrière, se trouve le panneau de la déesse Rome. Il s'agit du plus lacuneux des quatre reliefs avec des figures mythiques. Le complètement de la figure, gravé au stylet sur du mortier, fut réalisé sur la base de considérations iconographiques. Puisque la figure féminine était de toute évidence assise sur un trophée d'armes, il ne pouvait s'agir que de la déesse Rome, dont la présence, à côté de Tellus, signifiait la prospérité et la paix garanties par Rome victorieuse. La déesse est représentée en Amazone, la tête coiffée du casque, le sein droit découvert, une ceinture en bandoulière qui soutient une courte épée, une hampe dans la main droite. Très probablement dans le relief perdu, aux côtés de la déesse, il devait y avoir Onos, dieu de l'honneur, et Virtus, la vertu. Ou bien, mais moins probablement, le Genius Populi Romani, dieu tutélaire du peuple romain, et le Genius Senatus, dieu tutélaire du Sénat, sous les aspects de deux jeunes divinités masculines. La présence de ce couple, habituel dans les scènes de triomphe, est d'autant plus probable puisqu'il compense celle des deux Aure sur le panneau de Tellus. La tête, reconnue comme Onos, émergea des fondements du palais Fiano pendant les travaux de consolidation effectués en 1859. Insérée par erreur dans le panneau de Henné, elle fut ensuite enlevée au cours des restaurations effectuées sur le monument dans les années 80 du XXe siècle. La tête sera visible à l'intérieur du parcours muséal qui s'ouvrira bientôt. Sur les côtés fermés de l'enceinte sont représentés deux groupes de personnages, comme des prêtres, des assistants du culte, des magistrats, des hommes, des femmes et des enfants, dont l'identité historique peut être reconstruite uniquement par hypothèse et sans aucun doute non univoque. L'action même du cortège reste aujourd'hui incertaine. Les propositions considérées comme les plus vraisemblables sont deux. La première interprète la scène comme le « Reditus d'Auguste », c'est-à-dire la cérémonie d'accueil pour le « Princeps » à son retour du long séjour en Gaule et en Espagne. La seconde veut que le moment représenté soit celui de « l'inauguratio » de « l'ara pacis », c'est-à-dire de la cérémonie pendant laquelle on délimita et on consacra l'espace sur lequel se dresserait l'autel. Les personnages sur les deux côtés de l'enceinte représentent une seule procession. Les deux frises doivent être lues de façon unitaire, comme si l'on regardait le passage d'un seul cortège des deux côtés opposés de la rue. Sur les deux reliefs, les personnages se dirigent de gauche à droite, en procédant vers l'entrée principale de l'autel. Le cortège est ouvert dans les deux cas par les licteurs. Sur le côté droit, derrière les licteurs, sont représentés les pontifices, suivis par les augures, les prêtres qui faisaient partie de deux des plus importants collèges sacerdotaux. Selon une autre interprétation, les pontifices seraient suivis par les consules, les magistrats suprêmes. Parmi les personnages identifiés avec certitude, il y a Auguste lui-même, couronné de lauriers et la tête voilée. Autour de lui, le cortège semble s'arrêter. Le jeu des regards et des têtes qui se tournent converge vers lui. Derrière Auguste apparaissent les quatre Flamines Maiores, des prêtres facilement reconnaissables grâce aux caractéristiques couvre-chef surmontées d'une pointe métallique. L'autre personnage dont l'identité ne fait aucun doute est Agrippa, représenté avec la tête recouverte par le pan de la toge et un rouleau de parchemin dans la main droite. Un enfant se tient à ses habits, d'un geste filial, et il est reconnaissable comme Gaius César. Agrippa était l'homme fort de l'Empire, celui qui, plus que tout autre, s'était prodigué pour les victoires sur lesquelles Rome fondait sa paix. Mais Agrippa est aussi l'ami et le gendre d'Auguste, dont il a épousé en seconde noce la fille Julia, et le père de Gaius et Lucius César, adopté par leur grand-père et destiné à lui succéder au pouvoir. Gaius regarde la figure féminine qui suit. La tête voilée et la couronne de laurier, qui unit cette figure de haut rang à Auguste, la font communément reconnaître comme Livie, l'épouse du prince, qui, par sa dignité, peut bien être la première des femmes représentées dans le cortège. Tout aussi fondée est l'identification de cette figure avec Julia, qui apparaîtrait ici dans la suite de son mari et de son aîné Gaius. Dans la figure masculine qui suit, on reconnaît habituellement Tibère, dont le visage, aux traits résolus, semble pouvoir se concilier avec celui du jeune homme en robe, inférieur seulement d'Agrippa. Toutefois, l'identification a été récemment mise en doute à cause du fait que le personnage ne porte pas le Calceus Patricius, les chaussures que devrait nécessairement porter dans une cérémonie publique un personnage aux origines élevées comme le futur empereur. Tibère est suivi d'un groupe familial, probablement formé par Antonia Minor, nièce d'Auguste, son mari Drusus et leur fils Germanicus. Drusus est le seul personnage représenté en qualité de militaire, avec le caractéristique manteau militaire, le paludamentum. En effet, en 13 avant Jésus-Christ, il combattait les tribus germaniques à l'est du Rhin. Un deuxième groupe familial les suit, et il est vraisemblablement formé de Antonia Major, nièce d'Auguste, son mari Lucius Domitius Enobarbus, consul en 16 avant Jésus-Christ, et leurs enfants Domitia et Cneus Domitius Enobarbus, futur père de Néron. Si l'on commence la lecture par la gauche, l'enfant conduit par la main est traditionnellement identifié avec Lucius César, le cadet de Agrippa et Julia, lui aussi adopté par Auguste. La figure féminine voilée derrière lui pourrait être celle de sa mère Julia, vers laquelle convergent les regards de ceux qui sont autour. La perte du visage est ici particulièrement malencontreuse, car aucun portrait de Julia ne nous est parvenu, à la suite de la damnatio, l'effacement de la mémoire, qui la frappa en l'an 2 avant Jésus-Christ. Toutefois, les chercheurs considèrent aujourd'hui que Julia devrait être reconnue de l'autre côté du cortège, à la place de Livie, qui la remplacerait donc de ce côté de la procession. La figure féminine derrière Julia, ou Livie, est généralement reconnue comme Octavie la Jeune, la sœur bien-aimée d'Auguste. Au premier plan, entre les deux femmes, un jeune garçon, reconnu comme le troisième enfant de Agrippa et de sa première épouse Marcella Major. Derrière Octavie, on voit bien la petite Julia Minor, qui, en tant que nièce d'Auguste, jouit du droit d'apparaître la première parmi les petites filles présentes à la procession. L'identité des figures derrière la petite Julia reste encore très incertaine. Les personnages qui précèdent la famille d'Auguste sont généralement identifiés avec les membres des plus importants collèges sacerdotaux, comme les Quidicem Viri, peut-être les Augures et les Septem Viri. Le registre inférieur de l'enceinte est décoré par une frise végétale, composée de volutes qui se déploie à partir d'un buisson exubérant d'acanthe. À partir du centre de l'acanthe, s'élève verticalement un candélabre végétal, qui divise à son tour en deux parties symétriques la composition. À partir de l'acanthe, se développent des feuilles de lierre, de laurier, de vigne. Se séparent des rinceaux et des palmettes, et là où les tiges s'amenuisent, en s'enroulant en spirale, s'épanouissent des fleurs de tout genre. Au plus fort de l'entrelacement, trouvent un abri de petits animaux et 20 cygnes aux ailes déployées qui scandent le rythme de la composition. L'effet de fécondité et de plénitude qui émerge de l'ensemble et son message le plus immédiat a souvent été référé à la 4e églogue de Virgile, où le « Saeculum aureum », le retour de l'époque heureuse et pacifique, s'annonce avec la production copieuse et spontanée de fruits et de moissons. Mais la richesse de la frise se prête à des lectures ultérieures. Au-delà du rappel générique à la fertilité et à l'abondance, conséquence du retour de l'âge d'or, elle peut être lue comme une image de la « Pax Deorum », de la conciliation des forces divines qui gouvernent tout l'univers, rendue possible par Auguste. Au printemps 1996, la municipalité de Rome a confié à l'architecte américain Richard Meyer la tâche de concevoir un musée pour l'Ara Pacis. Non seulement un nouveau conteneur, mais un édifice à la hauteur de l'ouvrage à protéger, pour en garantir la valorisation, mais surtout la sécurité et la conservation à long terme. De son côté, Meyer, parfaitement conscient des problèmes de l'intervention, s'est retrouvé devant des contraintes de projets d'importance, certaines logistiques, d'autres imposées par l'administration au moment du mandat. Tout d'abord, il fallait considérer le but de l'ouvrage. L'isolation thermique, acoustique et atmosphérique de l'hôtel qu'il devait préserver dans des conditions climatiques idéales, bien éloignées de celles de départ. Il y avait ensuite la forme de l'étroite bande de terrain destinée au nouveau complexe, allongée sur l'axe nord-sud, parallèle au quai sur le Tibre. Puis la différence de côte, progressivement croissante vers le nord, entre la chaussée du Lungo Tevere in Augusta et celle de Via di Ripetta. Enfin, il y avait la volonté décisive du commettant de conserver la plus grande visibilité à un monument qui fait partie du panorama urbain. De plonger le marbre dans une lumière diffuse et autant que possible naturelle, de ne pas modifier le mur des res gestae, justement protégé. Tout cela a comporté des contraintes dans l'utilisation des matériaux de construction et l'étude préalable d'un système de climatisation sophistiqué qui puisse agir en présence d'importantes amplitudes thermiques et de grandes surfaces vitrées, comme celle de la nouvelle vitrine qui aurait contenu l'hôtel. Meyer a affronté sa tâche en concevant un corps architectural allongé sur l'axe nord-sud, le long d'un des côtés du trident, et en le divisant en trois secteurs principaux. Au premier, une galerie fermée à la lumière naturelle, on accède par le sud, par un grand escalier, qui, avec une douce progression, compense la dénivellation entre le quai sur le Tibre et Via di Ripetta, et qui raccorde la nouvelle construction aux deux églises d'en face. Le grand escalier présente deux éléments de rappel du passé. Une fontaine, souvenir du port de Ripetta, qui se trouvait justement sur ce terrain, et une colonne en travertin qui mesure de l'autel la même distance qui le séparait à l'époque d'Auguste de l'obélisque aujourd'hui sur la place Montecitorio. Après avoir franchi la pénombre voulue de la galerie, on entre dans le deuxième secteur, c'est-à-dire dans la pleine lumière du pavillon central, que l'on a voulu laisser dégager de tout système didactique pour présenter l'autel isolé et plongé dans une lumière naturelle et répandue par les sheds du toit et par les grandes vitres filtrantes. Cette solution a comporté le montage d'environ 500 mètres carrés de vitres, chacune d'environ 2 mètres sur 5, afin d'éviter un possible effet de cage du conteneur transparent. Le troisième secteur, au nord, est constitué par un édifice qui veut reconstituer le décor architectural perdu de Via Ripetta. Il a, en effet, des dimensions semblables à celles du lycée adjacent de Via di Ripetta. Il abritera une salle des congrès d'environ 150 places, située sur deux étages et fournie d'une salle de restauration pourvue d'une terrasse panoramique. Cet audioguide a été réalisé par Pierre Ecci et Douva Workshop. Texte par la surintendance municipale. Voix italienne, Gianni Esposito. Traduction et voix anglaise, Susan Charlton. Traduction et voix espagnole, Anna Ortiz. Traduction et voix française, Claude Proserpio. Enregistrement audio, MP Communication. Numérisation et programmation, Alessio Douva et Stefano Douva. Direction de production, Ilaria Douva. Coordination de production, Valentina Vitti.